Bon, je vais lancer les présentations, 18h04. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents pour cette sixième séance déjà du séminaire du département de philosophie de l'Université de Rouen. Je rappelle en introduction donc que ce séminaire est co-organisé par Aurélien Dedon et moi-même et vise à familiariser les étudiantes et les étudiants du département avec la recherche actuelle en philosophie telle qu'elle se fait, tant dans son fond que dans sa forme. Les séances du séminaire se tiennent une ou deux fois par mois, de 18h à 19h30, pour l'instant, donc, comme on l'a rappelé en visio, en espérant bien sûr que les récentes mesures et la vaccination auront un impact suffisant pour nous permettre de reprendre en présentiel rapidement, au moins à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, nous accueillons donc avec un immense plaisir Armand Guillot, que je remercie à nouveau chaleureusement pour avoir accepté d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. Armand Guillot donc est professeur agrégé de philosophie, docteur en philosophie et chercheur associé au Centre Bentham et au groupe d'études du matérialisme rationnel. Il est en particulier l'auteur d'un ouvrage issu de son travail de thèse intitulé Jérémy Bentham, le peuple comme fiction, et paru en 2014. À cette publication s'ajoutent de nombreux articles et chapitres d'ouvrages, parmi lesquels L'utilitarisme et le sujet de l'égalité, publié aux Presses universitaires de Rennes dans l'ouvrage Deux siècles d'utilitarisme sous la direction de Malik Bozoreil et Guillaume Tussaud, ou encore Résister à l'injustice, la philosophie politique de John Locke, publié aux éditions du Pont Neuf dans l'ouvrage De l'injustice sous la direction de Gérard Bras. Armand Guillot enseigne actuellement en lycée tout en étant chargé de cours au département. L'exposé qu'Armand va nous présenter aujourd'hui aura pour thème le sentiment d'injustice chez Locke et Bentham. Christopher Hamel a très généreusement accepté de jouer le rôle de répondant pour cette intervention. Je souhaiterais à nouveau le remercier très vivement pour cela. S'il était besoin de présenter Christopher Hamel, je rappellerai qu'il est agrégé de philosophie, docteur en philosophie de l'Université de Paris 1, actuellement maître de conférence, bien sûr, à l'Université de Rouen. Ses travaux portent principalement sur la philosophie morale et politique, à la fois d'un point de vue historique et contemporain. Parmi ses publications, on peut citer notamment l'ouvrage intitulé L'esprit républicain, droit naturel et vertu civique chez Algernon Sidney, publié au Classique Garnier en 2011, ou plus récemment l'article Diderot contre la physiocratie, une critique républicaine parue en 2019. Merci beaucoup Christopher pour ta présence aujourd'hui. Et je souhaiterais également remercier Aurélien Dedon, bien sûr, qui co-organise ce séminaire du département avec beaucoup d'enthousiasme. Juste avant de céder la parole à Armand, je vous communique la prochaine date du séminaire parce que ce sera déjà lundi prochain, donc lundi 19 avril, à la même heure, donc 18h. Et c'est Martin Buteau, qui est doctorant à l'Université de Rouen, qui interviendra sur le thème Vivons-nous dans un jeu vidéo, une analyse philosophique de l'hypothèse de la simulation. Et Franck Varenne sera son répondant, Franck Varenne, qui est le directeur de thèse de Martin. Vous pouvez donc d'ores et déjà noter cette date, donc lundi prochain, 19 avril, 18h, dans vos agendas. Sans plus tarder, je cède la parole à Armand. Armand, c'est à vous.
Très bien, merci. Merci Alexis, merci Aurélien pour votre invitation. Merci à Christopher Hamel d'être présent, de faire le répondant. Aussi, merci aux étudiantes, aux étudiants d'être là, d'être présents ce soir pour m'écouter. Alors, donc j'ai voulu proposer une discussion du sentiment d'injustice en associant deux philosophes assez différents, John Locke, Jérémy Bentham, qui appartiennent à des courants de pensée différents, appartiennent même à des siècles différents. Alors, je reconnais que je les ai associés en partie pour des raisons de circonstance, c'est-à-dire que j'ai rédigé deux articles qui étaient mutuellement indépendants pour un ouvrage collectif consacré au sentiment d'injustice. Pourtant, quand il est question du sentiment d'injustice, il y a rapidement des points communs qui apparaissent entre ces deux auteurs. Et le plus évident, c'est qu'ils se rejoignent dans la critique et dans le rejet du sentiment d'injustice entendu comme la manifestation d'un sens moral inné et infaillible. D'ailleurs, ce rejet ne va pas de soi, puisque, après tout, le sentiment d'injustice est une expérience courante et qui se passe tout à fait de la connaissance du droit, qui semble en quelque sorte précéder la connaissance du droit. Dans les mille, Jean-Jacques Rousseau pense même identifier ce sentiment chez un bébé. Il rapporte une anecdote. Voici ce qu'il dit après avoir vu un bébé se mettre en colère contre sa nourrice, alors que celle-ci l'avait frappé sans raison. Quand j'aurais douté que le sentiment du juste et de l'injuste fût inné dans le cœur de l'homme, cet exemple seul m'aurait convaincu. Et donc, pourquoi refuser de faire droit à cette expérience apparemment universelle? Au-delà du rejet de l'inéisme, Locke et Bentham partagent l'idée qu'un sentiment ne peut pas se suffire à lui-même. C'est-à-dire qu'un sentiment ne peut pas être à lui-même sa propre justification. Il a besoin d'une justification extérieure. Bentham note que le sens moral, l'expression, n'est en réalité qu'une appellation qui sert à dissimuler ce qu'il appelle le principe ipse dixit, ou principe de l'ipse dixitisme. Donc en fait, il s'agit d'un principe qui contient en lui-même l'affirmation de sa propre validité et qui dispense par conséquent d'avoir à argumenter en sa faveur. Ipse dixitisme, qu'un principe qui dit de lui-même qu'il est valide. Or, il apparaît évident pour nos deux auteurs qu'un simple sentiment ne constitue pas une raison suffisante pour condamner une action ou pour exiger réparation. De plus, il faut souligner que le sentiment que récuser le sentiment d'injustice ne condamne pas à une obéissance passive. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de prendre appui sur le sentiment pour se distancier du droit positif et être capable de le remettre en cause, de le faire évoluer. Une critique rationnelle du droit positif doit être possible. Et donc, John Locke, Jeremy Bentham reconnaissent tous les deux que le droit positif lui-même peut constituer un moyen d'oppression. Et même s'ils nous proposent des critères et des argumentations bien différents, tous deux en appellent à la raison. Voilà pourquoi on peut les réunir sous l'idée d'une critique rationaliste du sentiment d'injustice. Alors, je vais commencer par Locke. Disons que Locke part du constat que si le magistrat ne pouvait rien décider sauf à n'offenser personne, il ne pourrait prescrire à bon droit aucune loi. C'est-à-dire que pour Locke, se sentir offensé ne justifie pas de désobéir. Pour autant, il ne s'agit pas de défendre une obéissance aveugle. Voilà, il va s'agir de trouver le juste milieu entre l'obéissance aveugle et la désobéissance au moindre sentiment d'injustice. Alors sans doute, John Locke s'appuie sur le droit naturel pour évaluer la loi positive. Toutefois, sa philosophie politique ne prend pas la forme d'une liste des droits que tout État serait tenu de respecter, peu importe les conséquences. Elle tend plutôt vers la détermination d'un art de gouverner qui serait essentiellement un art de concilier les différentes autorités auxquelles l'individu est soumis. Alors, quelles autorités ? Pour Locke, on va pouvoir parler de l'autorité de la loi naturelle. C'est l'autorité morale, l'autorité de la loi positive, l'autorité politique. Et enfin, l'autorité religieuse, autorité de la conscience. Et le magistrat, celui qui détient l'autorité politique, aura pour rôle de coordonner ces différentes autorités, de faire en sorte qu'elles ne se contredisent pas, ce qui pourrait générer des conflits, des dissensions. Si ces autorités sont ou paraissent distinctes en fait, elles ne le sont pas en droit. Et donc concilier ces autorités, ça signifie réaliser leur unité. Ainsi, du point de vue de Locke, c'est la volonté de Dieu qui dicte la loi naturelle, et la loi positive ne constitue que le prolongement et l'application de la loi naturelle. Et donc, s'il y a des divergences entre ces lois, elles sont dues aux abus du magistrat, du magistrat quand il devient tyran, aux excès du croyant quand il devient enthousiaste. Donc à ce moment, notre question, ça devient comment confondre le tyran et l'enthousiaste. Alors, Locke nous dit que le magistrat outrepasse ses droits quand il agit de manière contraire à la loi positive ou encore de manière contraire au bien public. Dans ce cas, son autorité perd toute sa légitimité et le devoir d'obéir cesse. Cependant, il faut rester prudent parce que désobéir, résister à l'oppression, ne constitue pas pour Locke un devoir sacré. Au contraire, l'obéissance et la désobéissance doivent toujours être soigneusement calculées. Donc le bonheur et l'utile vont jouer ici un rôle décisif, ce qui donne un lien possible avec Bentham, on y reviendra. Notamment, il faut se résigner à l'injustice, il faut se résigner à obéir à des lois injustes lorsque les chances de mettre fin à la tyrannie sont insuffisantes. Conformément à la loi naturelle, le premier devoir des individus est de veiller à leur propre conservation. Donc, ils ne doivent pas mettre en danger leur vie inutilement. Disons que face à l'injustice, c'est encore la recherche du bonheur, qui passe d'abord par la conservation de soi, qui va déterminer l'action. Ensuite, si les individus font tout ce qu'ils font en vue du bonheur, comme Locke le soutient, il leur faut prendre en compte le bonheur qui intervient après cette vie, le bonheur éternel. Or, le bonheur éternel prime sur le bonheur terrestre. Raison pour laquelle, nous dit Locke, les hommes doivent obéir premièrement à Dieu et ensuite aux lois. Ça, c'est une formule de Locke que vous trouvez dans la lettre sur la tolérance, qui m'a un peu étonné quand je l'ai lu, un peu frappé. Les hommes doivent obéir premièrement à Dieu et ensuite aux lois. Alors, ça veut dire qu'un individu ne doit pas faire pour le bien public ce qui contredit ses convictions religieuses. Alors, bien sûr, aux yeux de Locke, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de contradiction réelle entre les devoirs religieux et les devoirs civiques. Pour la simple raison que Dieu ne peut pas vouloir ce qui est contraire au bien public. Ceci dit, dans ces matières, la vérité importe moins que la sincérité. Ce qui compte, c'est d'être sincère. Lorsque le salut de son âme est en jeu, l'individu doit avant tout agir selon sa conscience. C'est-à-dire qu'une erreur sincère sera préférable à une vérité feinte. Je peux vous lire un passage très court de Locke qui provient de l'essai sur l'entendement humain, c'est le livre 4. Locke écrit « Celui qui utilise la lumière et les facultés données par Dieu, qui cherche sincèrement à découvrir la vérité par les aides et les capacités dont il dispose, peut, en faisant son devoir comme une créature rationnelle, avoir cette compensation. S'il manque la vérité, il n'en manquera pas la récompense. » Donc, autant dire que dans les questions religieuses, le devoir de l'individu, c'est seulement d'agir selon sa conscience. Seulement, peut-être pas, il faut également qu'il fasse usage de sa raison, on va y revenir. Alors, disons que si l'individu juge en son âme et conscience qu'une loi positive est contraire à la volonté de Dieu, alors il doit désobéir. Peu importe qu'il ait tort ou raison, pourvu qu'il soit sincère. Ce qui justifie ce point pour Locke, c'est qu'on ne peut pas attendre d'un individu qu'il fasse passer le bonheur terrestre avant le bonheur éternel. Toutefois, Locke n'ignore pas l'abus qui peut être fait de la croyance religieuse. Il n'ignore pas les troubles auxquels elle peut donner lieu, disons quand elle devient excessive. Au livre 4 de l'essai, c'est le livre dont est tiré le passage que je viens de lire, le court passage que je viens de lire, au livre 4 de l'essai, Locke définit l'enthousiasme comme une conviction religieuse qui n'est pas fondée sur la raison, mais plutôt sur l'imagination. Disons que dans l'enthousiasme, l'imagination usurpe l'autorité de la raison. L'imagination prétend établir la révélation par ses propres moyens, ce dont elle est incapable. Pour Locke, la croyance religieuse, la foi, n'est que la raison naturelle étendue aux vérités révélées par Dieu. Bien entendu, puisqu'on parle de vérités révélées, il ne sera pas possible de les prouver directement par la raison. En revanche, il doit être possible de prouver leur origine divine, c'est-à-dire qu'il doit être possible de prouver qu'elles viennent de Dieu. De ce point de vue, le dernier mot revient à la raison et à elle seule. Locke est assez explicite sur ce point, il écrit, toujours livre 4 de l'essai, la critique de l'enthousiasme, « La raison doit être notre dernier juge et notre dernier guide en tout. » C'est pour ça que je parlais de rationalisme tout à l'heure. « La raison doit être notre dernier guide et notre dernier juge en tout. » De plus, je rappelle que la sincérité dans la foi appartient uniquement à celui qui a fait son devoir en tant que créature rationnelle. Être sincère, c'est s'en tenir aux conclusions auxquelles nous sommes parvenus en faisant usage de notre propre entendement. Ce qui, par définition, n'est pas le cas d'un enthousiasme, quelqu'un qui pense être inspiré par Dieu, qui pense avoir une intuition du Verbe divin. Alors, donc pour Locke, vous avez compris que force et raison ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Il écrit toujours dans l'essai, « Ce n'est pas la force de la conviction privée qui peut garantir que c'est bien une lumière ou une impulsion qui vienne du ciel. Rien ne peut le garantir si ce n'est le Verbe de Dieu écrit, extérieur à nous, ou la règle de la raison qui nous est commune avec tous les hommes. » Ici, je voudrais souligner que le caractère privé de la conviction s'oppose au caractère commun de la règle édictée par la raison, ou encore au caractère extérieur des textes sacrés. Donc la foi se doit de démontrer sa conformité à la raison. Elle doit s'appuyer sur des preuves qui rendront possible un accord intersubjectif. Tous les hommes, parce qu'ils sont rationnels, doivent donner le même assentiment aux preuves de la révélation, c'est-à-dire aux preuves du caractère révélé de telle ou telle proposition. Ce qui est intéressant ici, c'est que la conviction religieuse ne relève pas uniquement du domaine intime de la conscience. Au contraire, sa légitimité se mesure à sa capacité à être communiquée aux autres, à être, pour ainsi dire, universalisée au moyen des arguments en sa faveur. C'est donc dans la sphère de l'intersubjectivité, c'est sur le terrain de l'argumentation que se jugent toutes les convictions, y compris les plus intimes. C'est ce qui explique d'ailleurs la nécessité pour Locke d'établir la rationalité ou d'établir le caractère raisonnable de la révélation, c'est-à-dire le caractère raisonnable du christianisme. Ce qui, sans aucun doute, signe l'échec de son projet de fonder une morale scientifique. Locke, qui rejette le sentiment d'injustice, veut faire entrer la morale dans le domaine de la science. Et finalement, ça aboutit à un effort pour démontrer la rationalité du christianisme. C'est dans un ouvrage qui a été traduit en français sous le titre « Le christianisme raisonnable, tel qu'il nous est représenté dans l'Écriture sainte ». Alors, je passe à mon deuxième auteur, Jérémy Bentham. Autre point commun avec Locke, c'est que, comme je viens de l'expliquer pour Locke, c'est que le rejet du sentiment d'injustice s'accompagne en parallèle du projet d'une morale scientifique. Bentham, qui renonce dans un même mouvement à fonder la morale sur la nature et à la fonder en Dieu, a l'avantage, entre guillemets, on pourrait discuter pour savoir si c'est un avantage, disons qu'il a l'avantage de ne retenir que le bonheur et l'utile pour établir les bases d'une morale scientifique. C'est-à-dire que pour déterminer le juste et l'injuste, il suffira de calculer. Une action ou une loi seront justes quand elles produiront davantage de plaisir que de douleur. Elles seront injustes quand elles produiront davantage de douleur que de plaisir. Voilà, ça c'est le principe de l'utilitarisme. Mais on peut dire que de ce point de vue, le sentiment d'injustice se trouve à la fois reconnu et discrédité. Il est reconnu parce qu'il fait partie de ces douleurs que le principe d'utilité impose de prendre en compte. Il est discrédité parce qu'il ne peut pas, à lui seul, constituer le fondement d'un jugement de valeur, d'une norme. De plus, s'il faut prendre en compte toutes les douleurs, y compris celles qui sont associées au sentiment d'injustice, il existe peut-être une douleur cruciale, une douleur décisive, je veux dire par là, une douleur qui fera pencher la balance à chaque fois qu'il faudra arbitrer entre des intérêts, entre des revendications contraires. C'est la douleur du désappointement, la douleur de l'attente déçue. Alors, pourquoi ? Disons que la question de la justice, c'est notamment la question de la répartition des biens. La question de savoir comment les biens, comment les avantages de la coopération sociale doivent être répartis entre les individus. Plus précisément encore, quels sont les critères à prendre en compte quand nous voulons modifier la répartition de ces biens, la répartition de ces avantages. Quand il aborde ces sujets, Bentham nous dit que le mal de la perte est toujours supérieur au plaisir du gain. Vous voyez, là, on entre dans l'argumentation utilitariste, dans les considérations du calcul hédoniste. Le mal de la perte est toujours supérieur au plaisir du gain. Parce que nous ressentons toujours une douleur à perdre quelque chose, alors que nous n'en éprouvons aucune à ne pas posséder quelque chose. La perte, c'est une douleur, la simple non-possession n'en est pas une. De plus, il faudrait ajouter que la douleur de perdre est toujours supérieure au plaisir de s'emparer. En effet, chacun s'attend à conserver ce qu'il possède. Si bien que perdre une chose qui était en notre possession depuis un certain temps va produire une douleur spécifique. C'est la douleur du désappointement la douleur de l'attente déçue. Ça implique que tout transfert de propriété qui n'est pas consenti doit produire davantage de douleur que de plaisir. Et par conséquent, il va constituer une injustice. Donc, vous voyez que pour toutes ces questions, le principe d'utilité devient un principe de non-désappointement ou un principe de prévention du désappointement. Bentham dit parfois que la finalité du droit civil est de minimiser, voire d'exclure, la sensation de désappointement. Comment y parvenir ? Grâce à un droit positif qui soit déterminé et stable. En effet, c'est le droit positif qui forme les attentes, les espérances des individus. Et donc, pour que ces attentes ne soient pas déçues, il faut que le droit positif permette à chacun de déterminer avec précision, avec certitude, à quelles conditions il pourra acquérir, conserver ou échanger un bien. Vous voyez, ça permet de dire que le sentiment d'injustice est en quelque sorte réhabilité par l'argumentation utilitariste. On retrouve le sentiment d'injustice sous la forme de la sensation de désappointement. En effet, c'est cette sensation qui permet de faire le partage entre le juste et l'injuste. Cependant, le recours à un sens moral apparaît inutile. Il n'est pas nécessaire de faire appel au sens moral, puisque le désappointement ne fait que refléter des espérances rationnelles, des espérances, des attentes qui sont fondées sur le droit positif. Ça veut dire aussi que le recours à un droit naturel est inutile. L'État ne peut pas, sans contradiction, violer les droits de l'individu au nom du bonheur du plus grand nombre. Non, parce que, en toutes circonstances, l'intérêt du plus grand nombre, c'est précisément que l'État respecte les espérances qu'il a lui-même suscitées. Alors, il reste évidemment que Bentham semble ignorer le sentiment d'injustice sous la forme de la douleur spécifique que nous ressentons à la seule considération des inégalités. D'accord ? Éprouver un sentiment d'injustice, c'est parfois simplement percevoir des inégalités, réagir sur le plan affectif à l'inégalité. Alors, ainsi, on a vu que Bentham nous dit que la non-possession n'entraîne aucune douleur. Il dit, c'est un exemple qu'il donne, par exemple, un individu ne souffre pas à la seule idée de toutes les montres qu'il ne possède pas et qui sont au poignet des autres. À peine concède-t-il qu'une douleur de regret est possible. C'est-à-dire que quand nous y pensons, si nous y pensons, bien nous pouvons regretter de ne pas posséder nous-mêmes tel ou tel bien que d'autres possèdent. Donc, douleur du regret. Mais évidemment, vous avez compris, la douleur du regret sera inférieure dans tous les cas à la douleur du désappointement, à la douleur de l'attente déçue. Ce qui montre qu'il s'agit bien d'une expérience cruciale. Alors, ceci dit, s'il est vrai que la non-possession peut laisser indifférent, considérée en elle-même, il en va tout autrement quand nous la rapportons à un contexte économique et social. Le simple fait de ne pas posséder une chose pose problème lorsque cela s'accompagne d'inégalités économiques et sociales importantes. Pour le dire autrement, pour le dire peut-être plus simplement, Bentham semble ignorer le sens de l'égalité qui est pourtant essentiel aux sociétés démocratiques. Or, il se trouve que Bentham reconnaît l'inégalité en elle-même comme un mal, c'est-à-dire comme une source de douleur. Le simple fait de ne pas être à égalité avec les autres, de leur être inférieur de tel ou tel point de vue, occasionne des souffrances. Bentham le souligne notamment dans un essai sur la représentation où il écrit, je lis ce passage qui est assez court, « Inégalité de droit, voilà au moins une inégalité de dignité, inégalité de considération, inégalité de cette jouissance qui dépend de l'estime et de l'amour d'autrui, et n'est-elle rien que cette jouissance ? Il s'ensuit qu'aucun plan renfermant inégalité ne serait admissible, qu'autant que le plan de l'égalité parfaite se trouve à présenter des dangers solides et articulés dont le plan d'inégalité se trouve à libre. » Alors, comment expliquer ça ? C'est-à-dire que pour Bentham, une inégalité, c'est au minimum une imperfection imaginée. Mais une imperfection imaginée, c'est aussi une imperfection ressentie. Donc, une souffrance. Raison pour laquelle, toutes choses égales par ailleurs, c'est important, toutes choses égales par ailleurs, l'égalité sera toujours préférable à l'inégalité. On peut noter sur ce point que Bentham anticipe et formule assez précisément ce que les économistes vont appeler le principe d'utilité marginale décroissante. Utilité marginale décroissante, ça veut dire que l'utilité qu'il y a à posséder un bien est d'autant plus faible que l'individu dispose initialement d'une quantité importante de ce même bien. C'est-à-dire que plus quelqu'un possède une quantité importante d'un bien, moins il retire d'utilité à en posséder davantage. Dans le langage de Bentham, ça donne une quantité double de la cause de bonheur ne produira pas une quantité double de bonheur, mais beaucoup moins. Si on en tire toutes les conséquences, ça veut dire que plus la répartition des biens se rapproche de l'égalité, plus elle contribue efficacement au bonheur du plus grand nombre. Alors, le seul problème, c'est que parfois, enfin souvent d'après Bentham, l'égalité, en tout cas l'égalité matérielle, va présenter des dangers solides, articulés. Donc des dangers qui justifient qu'on préfère l'inégalité. Notamment, Bentham considère que l'égalité matérielle décourage le travail. C'est-à-dire que la possibilité de s'enrichir serait une motivation nécessaire pour travailler et produire. Alors, si les individus étaient convaincus de posséder la même chose qu'ils travaillent ou non, alors aucun ne travaillerait. En tout cas, aucun ne travaillerait suffisamment. Ça, c'est un premier point. De plus, il faut accorder la priorité à la sécurité. À la sécurité dans la satisfaction des besoins. C'est-à-dire que ce qui importe avant tout, c'est d'être sûr que les individus qui forment une société auront de quoi subvenir à leurs besoins. Et pour atteindre cette sécurité, il faut rechercher l'abondance. L'abondance est préférable à l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de disposer d'une réserve qu'on peut mobiliser en cas de difficultés exceptionnelles, type une sécheresse, des catastrophes naturelles. D'accord ? Alors, si on fait le bilan sur cette question de l'égalité, ça veut dire que le principe d'utilité impose de maximiser l'égalité sans décourager le travail et sans contrevenir au principe de non-désappointement. Cette maximisation de l'égalité, elle va exiger notamment, alors là j'ai des exemples, de maximiser les revenus du travail plutôt que ceux du capital. Faire en sorte qu'entre les revenus les plus élevés et les plus faibles, il y ait un grand nombre d'échelons, de telle sorte qu'on passe insensiblement de l'un à l'autre. Donc on pourrait se demander à quelle fin répondent ces dispositions. Eh bien, leur fin, c'est sans aucun doute de réduire le sentiment d'injustice. Alors, si on essaie de faire un bilan, admettons qu'il soit possible de mesurer la quantité de plaisir, la quantité de douleur produite par une action. Qu'aurons-nous gagné, si nous avons gagné quelque chose, à écarter le sentiment d'injustice et à lui substituer un calcul hédoniste? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire appel au sentiment pour ne pas rester aveugle aux conséquences parfois désastreuses du calcul hédoniste? On sait que il est régulièrement reproché au principe d'utilité de justifier le sacrifice des droits, des intérêts fondamentaux des individus au nom du bonheur du plus grand nombre. Vous savez, c'est la maxime de Jeremy Bentham. Bentham nous dit: il faut rechercher le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Problème, est-ce que ça ne justifie pas, dans certaines circonstances, de violer les libertés fondamentales des individus? On connaît l'exemple que donne John Rawls contre l'utilitarisme en général. Rawls nous dit, c'est la théorie de la justice, imaginons qu'une foule soit convaincue qu'un individu, en réalité innocent, soit responsable d'un coup d'État et qu'elle exige que cet individu lui soit livré. Imaginons qu'elle s'apprête à commettre des violences qui entraîneront certainement un grand nombre de morts. Dans ce cas, le principe d'utilité exige que l'innocent soit livré à la foule pour être lynché. C'est un calcul simple. Mieux vaut un mort, même innocent, que plusieurs dizaines. N'est-il pas légitime d'être indigné par de telles conséquences? Vous voyez qu'apparemment, l'utilitarisme nous condamne à un calcul froid face aux conséquences duquel il faudrait ignorer la révolte du sentiment. L'utilitarisme semble s'apparenter à la promotion d'une rationalité qui serait purement instrumentale et, pour ainsi dire, désincarnée. Alors, pour répondre à ces difficultés, déjà on peut rappeler que l'utilitarisme ne justifie pas réellement la violation des libertés fondamentales, des droits fondamentaux des individus. C'est-à-dire que si l'État accorde des droits aux individus, alors son premier devoir est de les respecter. Le respect de la règle sera toujours plus utile à long terme que sa transgression dans des circonstances exceptionnelles. Alors, cela dit, est-ce que nous sommes sûrs? Est-ce que nous sommes sûrs pour autant que le calcul soit en toutes circonstances, un guide plus sûr que le sentiment? Je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas réinscrire la raison en l'homme, c'est-à-dire reconnaître en l'homme un être complexe, à la fois rationnel et sensible, pour faire droit à la sensibilité? Alors, j'essaie de conclure assez rapidement, je surveille le temps. Disons que on a vu qu'il y avait chez Locke, comme chez Bentham, le projet de faire entrer la morale dans le domaine de la science. On a vu les difficultés auxquelles il se trouvait confronté. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce projet ? On peut sans doute retenir la nécessité de l'argumentation. Essayer comme ça de dépasser l'opposition stérile entre raison et passion. Opposition que Bentham d'ailleurs dénonçait lui-même. Alors, qu'est-ce que ça signifie si argumenter ? On l'a vu avec Locke, argumenter constitue un moyen de communiquer sa foi. Bentham souligne de son côté que argumenter constitue un moyen de communiquer son désir. C'est-à-dire que pour Bentham, quand un individu énonce un devoir-être, il ne prononce pas un jugement de fait. Il ne fait qu'énoncer son désir. Dire « ceci est un devoir », c'est toujours exiger des autres qu'ils se conforment à notre désir de voir une action s'accomplir. Alors, qu'est-ce qui peut rendre cette prétention légitime ? Qu'est-ce qui me permet de m'attendre à ce que les autres se conforment à mon désir ? Il faut argumenter. Qu'est-ce que c'est l'argumentation ? Elle va consister à démontrer aux autres qu'il est dans leur intérêt d'adopter la conduite que je recommande. C'est-à-dire démontrer aux autres que la conduite que je recommande aura des conséquences positives, non seulement pour moi, mais également pour eux. Donc, en pratique, le calcul hédoniste donne lieu à une communication du désir. C'est-à-dire que les désirs, les intérêts, ne sont pas des données que le calcul se contente de prendre en compte. Ils sont transformés par l'argumentation. Si vous voulez, quand on va argumenter, on va s'efforcer de faire partager son désir, et par là, on va façonner son désir selon le désir de l'autre. Autant qu'on va façonner le désir de l'autre selon le sien. Et donc, celui qui est impuissant, celui qui échoue à communiquer son sentiment d'injustice, c'est-à-dire concrètement, celui qui échouerait à communiquer son indignation ou sa révolte, celui-là devrait accepter le verdict du dialogue, de la délibération. Voilà. Je vous propose de m'arrêter ici pour laisser un peu de temps à la discussion, puis pour voir s'il faut revenir sur certains points.
Merci beaucoup Armand pour cette excellente exposée. Sans transition, je laisse tout de suite la parole à Christophe Ramel pour la discussion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Armand. J'essaye de me rendre visible.
Très bien.
Voilà, ça y est. Donc merci beaucoup pour ton exposé qui est très riche et qui est riche aussi en particulier parce qu'il fait appel à deux auteurs qui même si tu les rapproches hein, à partir de cette thématique sont néanmoins assez distincts comme tu l'as dit. Alors c'est pas pour accentuer les distinctions que je veux prendre la parole en réagissant donc à ce que t'as dit mais peut-être Alors, peut-être j'ai une question qui est commune aux deux et qui est d'ordre de clarification, mais en particulier pour Bentham, que je connais moins bien que Locke. T'as eu tendance à mettre sur le même plan, et je veux pas dire que c'était volontaire au sens où tu aurais derrière des raisons fortes de le faire, mais peut-être par simplicité ou pour aller vite, en tout cas, tu as eu tendance à mettre sur le même plan à plusieurs reprises injustice, indignation et révolte, sentiment de révolte. Alors, ma question en particulier pour Bentham, c'est de savoir si tu penses qu'il y a des éléments qui permettent de distinguer ces termes ou ces sentiments, parce que il y a peut-être une lecture politique des sentiments qui est sous-jacente à la variation du vocabulaire qu'on peut utiliser, même si, en fait, bien comme tu le fais toi-même, il y a de bonnes raisons de penser que dans certains cas, un sentiment de révolte soit un sentiment d'injustice à certains égards et qu'un sentiment d'indignation recoupe en partie aussi un sentiment d'injustice. Mais est-ce que tu penses que chez Bentham, il y a matière à, et peut-être même aussi d'ailleurs chez Locke, des raisons pour les associer ou les faire se recouper, ou au contraire, peut-être pour les distinguer en partie. Je sais pas comment tu veux procéder, si tu préfères répondre tout de suite, et puis ou je donne quelques... Je sais pas comment vous avez l'habitude de faire, Alexis.
C'est vraiment comme vous voulez, c'est comme Armand ouais. préfère.
Non, mais je veux bien répondre tout de suite, on ne semble pas être trop long, pour te laisser le temps, mais j'ai peur d'oublier après.
Ok.
Alors, c'est vrai que chez Bentham, en tout cas, la question de la diversité des sentiments, elle est difficile, parce qu'il a quand même une perspective réductionniste, c'est-à-dire que tout sentiment se réduit à un assemblage de plaisir et de douleur. C'est-à-dire qu'il y a des sensations, des affects fondamentaux, simples, plaisir, douleur, et qui s'assemblent ou se composent différemment pour donner tous les sentiments dans leur diversité. Et donc, ça c'est un premier point. Ensuite, ce qui est visé, sans doute par les deux auteurs, c'est ce qu'on appelle sens moral. Le premier souci, c'est de démontrer que le sens moral, ça n'existe pas, et puisque tous nos sentiments moraux, en tout cas pour Bentham, voilà, je vais me concentrer sur Bentham, je vais avoir du mal à associer deux. Pour Bentham, le sens moral n'existe pas parce que tous les sentiments que nous disons moraux se réduisent, en dernière analyse, à deux affects simples, plaisir et douleur. Et ensuite, la variation, elle est dans les mots que l'on utilise pour distinguer les sentiments. Et il y a sans doute un jeu, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a un jeu, il y a une dynamique, c'est que les mots vont, en réaction, susciter des sentiments. Et donc, voilà, pour faire la part des choses, il faudrait voir l'occasion des sentiments, la cause des sentiments. Est-ce que la révolte, le sentiment d'injustice est provoqué par le fait qu'une action soit contraire aux droits de l'homme, par exemple, ou est-ce que ça provient du fait que elle aura pour conséquence davantage de plaisir que de douleur.
D'accord, parce que je pensais par exemple à un point que tu as abordé, dans ton exposé, qui était la question du lien entre injustice et inégalité. Et par exemple, on pourrait très bien imaginer en des termes... peut-être d'un peu loin, mais en termes benthamiens, que l'atteinte à la propriété peut peut-être avec, avec une idée jungienne, que l'atteinte à la propriété est vraiment constitutive du sentiment d'injustice, ou en tout cas du induirait l'usage de ce terme-là, et que ce serait souhaitable pour le philosophe de le stabiliser ainsi, et que par contre le dénuement complet de l'individu qui n'a pas de quoi subvenir à ses propres besoins, et dont je suis le spectateur, moi qui suis protégé de ça, pourrait créer un sentiment qui finalement est assez différent, c'est déplaisant aussi. Enfin, si on n'est pas un aristocrate qui pense qu'un autre être humain n'est pas vraiment un être humain, s'il n'est pas dans sa caste, c'est clair. Donc du coup, dans ce cas-là, le sentiment soit finalement désagréable aussi, mais coloré de façon distincte. Il n'y a pas d'atteinte à la propriété, à la question de sa propre sécurité au sens très très général du terme. Mais par contre, il y a un sentiment de trouble ou de gêne vis-à-vis de la situation dans laquelle se trouve autrui. Alors, que ce soit plus ou moins peut-être formulé comme ça ou pas chez Bentham, est-ce que ça a un sens en termes benthamiens de raisonner en ces termes ou pas?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'esprit, ce serait d'éviter le terme d'injustice, d'éviter le vocabulaire de l'injustice et de lui substituer le vocabulaire de l'utilité, ou en tout cas un vocabulaire adapté au calcul hédoniste. Ah. D'où en fait, aussi trouver du coup derrière un mot unique, injustice, une diversité de sentiments, une diversité d'expériences qu'il essaie de désigner sous le terme de désappointement ou de regret. Il y a une différence entre désappointement, attente déçue et regret. Alors que la différence, elle pourrait être masquée, pourrait être recouverte par le terme d'injustice et par son usage à des fins polémiques. Voilà, ce qu'il craint aussi, c'est l'usage qu'on peut faire des mots injustice, droit naturel, pour des fins, pour remettre en cause justement le droit positif sans nécessairement de raisons suffisantes pour le faire. Ce serait créer un vocabulaire approprié aux exigences du calcul. Soit aussi réformateur de la langue, finalement.
Oui, bien sûr, ouais. Comme Hobbes, en un certain sens, qui considère que le vocabulaire moral est essentiellement une manière de décrire la manière dont les choses nous affectent et dont les situations nous affectent fondamentalement. Ouais.
Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Moi, je n'ai pas pensé, alors que je crois qu'ils sont parfaitement d'accord là-dessus. Tyrannie, monarchie, finalement, c'est la même chose avec des noms différents en fonction de ce qu'on ressent. Voilà.
Effectivement, merci Aurélien d'avoir précisé dans le chat qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions, que tout le monde peut lire a priori, mais sinon qu'on peut aussi lire à haute voix. Pendant qu'on échange, vous ne nous interrompez pas en posant vos questions dans le chat, même si on parle. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'en ai quelques-unes encore, bien sûr, que je vais faire courtes, mais voilà, que ça ne vous gêne pas. Et puis de toute façon, on considère qu'à un moment, je laisse la parole aux étudiants, étudiantes ou aux personnes présentes pour poser des questions. Alors j'en avais une à propos de toujours à propos de Bentham, donc je reprends plutôt dans le sens inverse de ton cheminement. J'ai eu l'impression dans ce que tu décrivais, et ça me semblerait assez cohérent avec certaines choses que je peux savoir de Bentham, mais encore une fois, je vais être prudent, donc je te soumets juste cette question. J'ai l'impression que le biais par lequel on prend au sérieux ce que l'on appelle d'habitude l'injustice, mais que Bentham veut essayer de ne pas appeler de cette manière sans se faire piéger, etc., c'est en fait essentiellement un rapport à la propriété.
Et donc, avec cette idée qu'il y a une attente, que cette attente elle est rendue possible par la sécurité, c'est-à-dire par le fait que je peux espérer dans le futur que grâce aux lois qui sont établies, je bénéficie toujours de ce que je possède, etc. Est-ce qu'il y a d'autres sources du désappointement pour Bentham? Ou est-ce que, au fond, on pourrait dire que tout part de là, que toutes les formes de désappointement sont, d'une manière ou d'une autre, réductibles à cette expérience douloureuse ou cette anticipation douloureuse d'une expérience douloureuse de la perte de ce que je possède.
Alors, je pense qu'on pourrait le retrouver dans d'autres domaines. Là, je me suis concentré sur la question du droit civil. On le retrouverait dans le droit pénal. On s'attend à avoir certaines peines associées à certains délits. On s'attend à ce qu'un délit entraîne telle ou telle peine. Et donc, c'est une attente rationnelle qui est fondée sur le droit positif et elle pourrait être contredite si la peine était disproportionnée ou insuffisante.
D'accord, mais parce que justement, j'ai l'impression que son idée de son l'idée générale de la civilisation, donc c'est-à-dire d'une société, d'une vie humaine sociale, d'une vie humaine dans une société, elle est en fait indissociable de l'existence de lois ou du droit. Du droit au sens du droit positif, et que la fonction première du droit, c'est protéger la propriété. En ce sens-là. Et que donc, j'ai une lecture.
Non, mais... je t'écoute, vas-y, continue.
Donc, j'avais l'impression que du coup, cette... Le sens qu'on peut accorder le crédit qu'on peut donner au sentiment que l'on a, que l'on appelle habituellement injustice, mais qu'il faudrait mieux, selon lui, ne pas appeler ainsi, il serait tout entier contenu dans cette condition civile, qui est une condition qui est réglée par des lois, c'est-à-dire qui répartit les biens et qui assure à chacun la jouissance de ce qu'il possède légitimement. Cette importance de la loi et de sa fonction de protection de la propriété comme condition de l'existence d'une sécurité pour l'individu, par opposition à un état de nature, ça rentrait en écho avec ce que tu disais sur la redescription de ce qu'on appelle habituellement l'injustice par l'expérience du désappointement. Et donc, je me demandais s'il y avait là quelque chose de fondateur dont découleraient d'autres formes de désappointement, ou si, en fait, il y a cette dimension-là qui est évidemment essentielle, mais il y en a d'autres qui sont indépendantes qui relèvent du désappointement aussi, qui relèvent du déplaisir, mais qui ne sont pas... réductible à cette expérience de l'insécurité de la propriété.
Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que la première fin du droit civil, la première fin de l'État, c'est la sécurité. Alors, il s'exprime pas comme Locke en disant que le gouvernement est institué pour garantir la propriété, c'est-à-dire jouer en sécurité de ses biens. Il dit que le gouvernement est institué pour garantir la sécurité. Et donc, c'est ce qui vient en premier, avant l'abondance, avant l'égalité. Ensuite, qu'est-ce qui sert de modèle pour penser cette sécurité? C'est vrai qu'elle a tendance à penser les droits eux-mêmes comme des biens à répartir entre les individus. Par exemple, il considère qu'il est faux de penser qu'il peut y avoir une égalité en droit, que les individus peuvent être égaux en droit. Lui dit au contraire, l'ordre social, il est fondé sur l'inégalité des droits. C'est-à-dire que les droits sont répartis différemment entre les individus. Il prend régulièrement le modèle de l'argent, de la répartition de l'argent, parce qu'évidemment, l'argent, c'est quelque chose que l'on peut diviser facilement et qu'on peut facilement soumettre au calcul. Et donc, quand il dit que le double de la cause de bonheur ne produit pas le double de bonheur, immédiatement après, il prend l'exemple de l'argent. Prenons la répartition d'une somme d'argent, etc. Donc, il y a bien ce modèle de biens qu'on possède, qui sont divisibles, qui sont quantifiables. Mais tout ça, ce sont les exigences du calcul. Mmh. C'est-à-dire la sécurité, la sécurité, ça justifie aussi de modifier la répartition de la propriété privée. Voilà, les parts. Le principe d'utilité, c'est pas un principe uniquement conservateur. C'est-à-dire que le but, c'est pas de garantir la stabilité de la propriété. Il y a quand même une nuance entre stabilité de la propriété et stabilité des attentes. C'est-à-dire qu'on peut modifier la répartition de la propriété privée sans contredire les attentes légitimes des individus. Alors, il prend l'exemple des héritages. On peut jouer sur les héritages pour égaliser la propriété sans contredire des attentes légitimes.
D'accord. Une autre question, dernière, question sur Bentham. Je reviens pas sur le problème classique que tu as réexposé à partir de l'exemple de Rawls, de l'objection que fait Rawls, qui considère de façon générale que l'utilitarisme ne considère pas assez les personnes comme des êtres séparés, et donc Rawls qui critique une approche agrégative de la justice, qui pourrait conduire du coup à des sacrifices en termes de liberté fondamentale ou de droits individuels. Mais par contre, je voulais donc c'est une question encore une fois sur plutôt de d'éclaircissement sur Bentham que je connais pas assez. Est-ce qu'il, parce que tu as dit à plusieurs, on sait qu'il est très critique vis-à-vis de l'usage du concept de droit de l'homme, dont il pense que ce sont des non-sens, mais pour autant il n'est pas du tout opposé à l'idée qu'il puisse y avoir des droits protégeant les individus, non pas des droits au sens où l'entend le juste naturalisme et puis la tradition révolutionnaire, mais ou en tout cas une certaine tradition révolutionnaire, mais je me demandais s'il y avait dans ses écrits, dans sa pensée, quelque chose qui se retrouve chez certains conséquentialistes contemporains, mais qui se retrouve aussi en fait déjà chez Mill, même si Mill ne le formule pas exactement de façon si nette, cette idée que pour promouvoir un certain type de bien, il est indispensable, il est absolument requis de reconnaître des droits aux individus à qui on va attribuer, pour qui on va promouvoir ces biens. Donc, par exemple, un exemple que prend Petite dans un article sur le conséquentialisme et le rapport du conséquentialisme avec la notion de droit, de droits individuels, rights. Et donc, il dit, si on veut promouvoir le bien qu'est la dignité, par exemple, c'est-à-dire ce sentiment de contrôle de son espace personnel, de pas être le jouet de la volonté d'autrui, de pas être le jouet d'autrui, de pas être le jouet du gouvernement, etc. Si on veut promouvoir en un sens conséquentialiste ce bien qu'est la dignité, le sentiment que chacun a d'être son propre maître en quelque sorte dans un espace donné, il est indispensable d'attribuer aux individus comme un moyen de réaliser ce bien qu'est la dignité, de leur attribuer des droits. Et de leur attribuer des droits en un sens très fort, c'est-à-dire au point où l'État s'engage à, sauf circonstances exceptionnelles, pandémie ou je ne sais quoi,
catastrophe, s'engage à ne pas interférer dans cet espace reconnu. Est-ce qu'il y a cette idée que, en gros, on peut faire une place très très forte aux droits, mais pas en les représentant comme des sortes de normes intangibles absolues, dont d'un point de vue déontologique, dont on dirait les respecter, c'est bien. Ce serait plutôt une justification conséquentialiste. C'est qu'en reconnaissant des droits aux individus, on produit un certain type de... Alors, on pourrait même dire, par exemple, la sécurité. La sécurité, elle est produite comme bien en reconnaissant des droits contre lesquels l'État ne peut pas empiéter, enfin, que l'État ne peut pas empiéter de façon discrétionnaire ou de façon sans des justifications particulières, sans des raisons spéciales. Est-ce qu'il y a ce genre de choses chez Bentham ou pas ?
Oui, tout à fait. C'est l'esprit, c'est ça. On définit des biens fondamentaux qui sont comme les conditions nécessaires du bonheur. Et ensuite, il s'agit de savoir comment garantir aux individus la possession des biens en question. Dans ces droits font partie des droits fondamentaux attachés aux individus. Alors, sur la critique des droits de l'homme, il y a deux choses. Il y a la critique des déclarations des droits adoptées par la France révolutionnaire, où Bentham fait une lecture très, très littérale et critique la lettre un peu. Mais en même temps, il propose de remplacer la notion de droit de l'homme par ce qu'il appelle des garanties contre l'abus de pouvoir. Garantie en anglais « securities », c'est-à-dire que là, on retrouve justement le terme « sécurité ». Donc, ce qui est indispensable, c'est d'avoir ces garanties contre l'abus de pouvoir, ce qui correspond concrètement à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à la liberté d'association. Et donc, finalement, on retrouve ces libertés fondamentales que les déclarations françaises des droits entendaient préserver. Et il pense justement, là, ça rejoint ce que tu dis, il pense pouvoir leur donner un fondement plus sûr que celui de la nature, que celui du droit naturel. Ensuite, il faut également... tenir compte du fait, on distingue parfois utilitarisme de la règle, utilitarisme de l'acte, c'est-à-dire que il s'agit jamais en réalité d'évaluer les conséquences d'une action. Il s'agit d'évaluer les conséquences de l'adoption d'une règle. Et donc, ce qui est bénéfique au plus grand nombre, au contraire à l'intérêt du plus grand nombre, c'est l'adoption d'une règle. Et donc, c'est la règle en elle-même qui sera utile ou non. Une fois qu'on a adopté la règle, il s'agit de la respecter. Si l'État s'autorise à ne pas respecter la règle dans certaines circonstances, il va engendrer une douleur spécifique que Bentham appelle l'alarme. C'est-à-dire que si on sait que nous avons des droits, mais que l'État peut ne pas les respecter, alors on vit dans une insécurité permanente. Et donc justement, ce souci de la sécurité, c'est le souci du respect des droits fondamentaux des individus. Ce ne sont pas des droits moraux, ce ne sont pas des droits naturels, mais ce sont des garanties contre l'abus de pouvoir, et ces garanties, il ne faut pas les remettre en cause. Ensuite, on pourrait ajouter aussi peut-être que souvent dans les exemples qu'on prend, c'est-à-dire on se met à la place des gouvernants qui calculent pour le peuple, pour les sujets. Alors qu'en réalité, le calcul d'utilité, il est effectué par les citoyens eux-mêmes et pas uniquement par leurs dirigeants. C'est-à-dire que Bentham écrit régulièrement que les dirigeants ne savent rien des individus. C'est-à-dire que les dirigeants ne sont jamais en prise directement avec les individus, avec leurs intérêts, avec leurs attentes. Ils sont en prise avec des fictions qui représentent les individus, mais qui ne coïncident jamais avec la réalité. Donc il est nécessaire de donner la parole régulièrement aux individus eux-mêmes, parce que c'est l'individu qui est le mieux placé pour juger de ses propres intérêts. Et donc l'État fait des estimations, qui ensuite demande à être validée par les individus eux-mêmes au moyen des élections. C'est-à-dire au moment, c'est pour ça que Bentham défend le suffrage universel, là ce sont les individus eux-mêmes qui vont dire si les décisions prises par les gouvernants sont conformes ou non à leurs intérêts. Parce que ce sont eux qui connaissent leurs intérêts et pas leurs dirigeants.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour Bentham. Et du coup, j'avais quelques questions par rapport à Locke. T'as parlé un moment au début, en fait, pour qualifier le travail la tâche du magistrat, du gouvernant, de d'art de gouverner, pour qualifier ou pour décrire cette tâche qu'il aurait de concilier différents types d'autorité, et donc l'autorité morale, l'autorité politique et l'autorité religieuse. Et ça laisse, enfin, c'est une manière de prendre en considération l'idée qui apparaît souvent, enfin, à plusieurs reprises dans le texte de Locke, c'est que et tu l'as rappelé d'ailleurs, ce que doit faire le gouvernement, c'est essayer de réaliser par d'autres moyens ce que les individus dans l'état de nature ne parvenaient plus à réaliser par eux-mêmes, à savoir exécuter la loi de nature. Mais ça introduit l'idée, enfin la notion d'art de gouverner, elle introduit une dimension qui rapprocherait du coup Locke des penseurs de la raison d'État ou des penseurs qui mettraient en suspens ou entre parenthèses qui est censée être la force normative de la loi de nature. Et donc je me demande comment tu réconcilies l'art de gouverner et l'idée que le gouvernement est lui-même soumis à la loi de nature.
Ouais. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un peu. Alors, son art de gouverner, c'est pas le. Évidemment, c'est pas l'expression de Locke, hein. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu extérieur. Alors, je sais pas si je plaque sur Locke ou si ça fonctionne bien. Moi, j'y ai pensé avec la lettre sur la tolérance, parce que j'étais frappé, comme je disais, qu'il puisse dire qu'il faut obéir d'abord à Dieu et ensuite à la loi. Et finalement, cette maxime, obéir d'abord à Dieu, ensuite à la loi, ça définit la tâche du magistrat. C'est finalement, j'avais l'impression que pour Locke, c'était au magistrat lui-même de faire en sorte que la loi positive ne contredise pas les convictions religieuses des sujets. Et il doit le faire parce qu'il ne peut pas leur demander de sacrifier le salut de leur âme à un bien temporel. Et donc, finalement, bien sûr, le magistrat est soumis à la loi naturelle qu'il doit appliquer, mais il a aussi affaire, à des sujets qui, éventuellement, pourraient s'opposer à la loi pour des convictions religieuses ou pour des convictions morales. Il doit s'adapter. Voilà, s'appeler art de gouverner, en fait, c'est un peu l'application de la loi naturelle à la diversité des croyances et des convictions. Ah. Voilà, essayer de concilier comme ça l'unité de la loi naturelle et la diversité des croyances. Je ne sais pas si c'est.
Ok, ça m'éclaire effectivement que tu le reformules comme ça. Ça me semble plus disons, plus convaincant, ou plus. Enfin, je le comprends mieux, en tout cas, le sens de cet usage. Alors, j'avais une dernière question, puis je m'arrêterai là, je pense. Après, je laisserai vraiment la parole aux participants, aux présents. C'est alors une question qui est plus générale, qui touche le rapport entre alors sentiment moral et rationalisme sur la question spécifique que tu as abordée pas mal chez Locke évidemment, qui est la question de la résistance. Il me semble que dans les passages où il justifie la résistance, cette opposition, elle est pas aussi forte que ce que tu suggérais. Alors, je pense notamment à un passage du second traité, donc un passage du chapitre sur sur ce droit de résistance, où il invoque justement dans un même paragraphe. Alors, j'avais ressorti le texte tout à l'heure pendant que je l'écoutais. Il y a une série de paragraphes. Il y a notamment le paragraphe 209 du second traité, le paragraphe 230 du second traité. Et il dit dans ces passages-là, il prétend que le peuple qui entre en résistance, est guidé par ce qu'il appelle, je le cite, hein, l'intelligence propre aux créatures raisonnables. Alors, au paragraphe 209, il dit lorsque le peuple est en conscience persuadé. Donc, on est dans le registre de la conscience, donc ce que tu as parfaitement, bien sûr, abordé et rappelé. Mais aussi, dans ce même passage paragraphe 230, il dit « Le peuple acquiert la conviction fondée sur des preuves manifestes qu'on trame des entreprises contre ses libertés. »
Oui.
Paragraphe 230. Et en fait, il y a tout un ensemble de textes dans la justification de la résistance, où il y a à la fois l'idée qu'il est impossible qu'un peuple ne ressente pas cette injustice qu'on lui fait, parce qu'en fait, quand on lui fait des injustices, il les sent passer, ses biens sont rendus non sûrs, les arrestations sont arbitraires, etc., etc. Et donc, il ne peut pas le ressentir, mais ce ressenti, c'est ce qui est propre à l'intelligence de créature raisonnable. Donc, il ne dissocie pas, en tout cas pas tout le temps, rationalité et sens moral, mais par moments, au contraire, on a l'impression, alors c'est peut-être qu'il a besoin de tous les arguments possibles pour justifier cette théorie de la résistance, et que donc il finit par mêler des choses qui devraient être distinctes, mais en tout cas, il y a des moments où sa stratégie n'est pas simplement de disqualifier le sens moral, hein. Enfin, il me semble. Et que je ne dis pas que ça ne peut pas rentrer dans ton analyse, probablement que ça le peut, en fait, mais du coup, ça invite à le reformuler ou à montrer que c'est peut-être pas ce qui est le plus fondamental et que ce qui prime de façon plus générale, c'est... tu vois ce que je veux dire ?
Oui. Oui, c'est intéressant comme passage parce que justement, voilà, ma conclusion, c'était que voilà, comment dépasser peut-être l'opposition sens moral rationalité. Comment voilà, est-ce qu'on peut trouver un moyen de montrer qu'il y a peut-être une rationalité du sens moral ou une raison sensible, quelque chose comme ça. Donc pour ça, ce sont des passages intéressants. Il y a une différence aussi dont j'ai pas parlé, que j'ai cru constater dans ces passages de Locke, que je trouve difficile. C'est la différence entre justement la résistance qui a pour sujet le peuple et la résistance qui a pour sujet des individus. C'est-à-dire que déjà sur le plan du droit, c'est le peuple qui est la source de toute autorité et pas un individu. Et donc là, le droit, il est du côté du peuple et pas d'un petit nombre d'individus. Et ensuite, sur le plan du fait, des individus ont peu de chances de réussir à mettre un terme à la tyrannie. Tant qu'ils sont isolés, leur action n'a aucune chance de réussite et donc ils se mettent en danger inutilement. Alors que quand il s'agit du peuple encore, là, les chances de succès augmentent.
Mais ça c'est une enfin ça c'est un argument sur l'efficacité disons de la résistance de la révolution. Alors pointer un point intéressant, c'est-à-dire que cette question on pourrait initialement dire bah non mais la question de l'efficacité et la question de la légitimité sont distinctes chez Locke. C'est pas parce que c'est inefficace, illégitime et tu soulignais que c'est plus compliqué.
Oui.
Parce que si je m'expose à une si je me lance dans une tout seul ou avec quelques aventureux dans une résistance au pouvoir qui est bien établie et qui ne sera pas suivie par la grande majorité du peuple, je m'expose à violer l'obligation que j'ai de me maintenir en vie, puisque je m'expose à me faire juger sévèrement par le pouvoir, évidemment. Et donc la question de l'inefficacité et des effets contre-productifs de la tentative de résistance, elle peut avoir un enjeu du point de vue normatif important qui est pour l'autre, qui est la question du maintien dans l'existence, du devoir que j'ai de me maintenir dans l'existence. Mais pourtant, il y a quand même des passages où l'autre dit bien, quand le pouvoir arbitraire saisit les biens, quand le gouvernement civil saisit les biens de façon arbitraire d'un individu, il y a injustice, et donc la question va être, donc le pouvoir enfreint sa mission, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on se demande si cela suffit à justifier en principe la résistance, ou si ce n'est qu'une fois que le peuple aura été convaincu, que la totalité du peuple aura été convaincu que il y a là un danger pour tout le monde, et pas simplement pour l'individu qui subit l'injustice, que alors la résistance sera légitime au sens plein. Et les commentateurs ne sont pas du tout d'accord là-dessus. Hein. Certains disent que c'est quand la majorité du peuple a dit que la résistance était légitime qu'elle l'est. D'autres disent au contraire qu'elle l'est au départ, mais qu'elle ne sera efficace que lorsque le peuple le peuple dans son immense majorité va s'engager dans la résistance. Donc il y a un flou. Il y a un flou dans le texte de Locke probablement. Mais du coup, dans ces passages, effectivement, il me semble qu'il y a déjà. Alors, c'était pour juste terminer. Question que je me posais est-ce que ça ne remet pas en cause le refus de l'inéisme à tes yeux cette évidence à un certain moment, à un certain point. Saisi par la sensibilité et par des consciences raisonnables ou des créatures raisonnables, cette évidence de l'injustice. Est-ce que ça... Oui. Ou de la violation de la loi de nature.
Je trouve particulièrement problématique aussi la question du droit, du devoir de prévenir la tyrannie. Il y a aussi, on n'a pas besoin d'attendre que la tyrannie soit manifeste, il faut la prévenir. Et donc, c'est vrai que là, comment pas faire appel au sentiment dans cette circonstance particulière? Si la tyrannie n'est pas encore manifeste, apparemment notre seule ressource est de ressentir que la tyrannie est à venir. Donc, je ne sais pas si ça va jusqu'à remettre en cause l'idéisme. Voilà, je... Alors, est-ce que plutôt que de remettre en cause l'inéisme, il ne faut pas justement revenir à cette distinction entre raison et passion? Est-ce que ce n'est pas voilà, la différence entre raison et passion qu'il faut remettre en cause? On constate les premiers signes de la tyrannie et on sent que le risque de tyrannie est réel. Est-ce que pour ça, on a besoin de, voilà, d'un sens inné de l'injustice? Ouais, je ne sais pas si...
Merci. Merci beaucoup.
Ouais, sympa, ouais. Merci à toi.
Bah, peut-être voir s'il y a des questions dans l'assistance. Aurélien en particulier ou d'autres, évidemment.
Moi, non, j'ai merci beaucoup pour la discussion. C'est très fouillé et très éclairant. Et en fait, Christopher a un peu tourné autour de la question de la résistance collective. Et voilà, donc en fait, finalement, j'ai pas vraiment de questions pertinentes pour le moment. Voilà.
Ok.
Je vais peut-être juste poser une question. Ouais. Assez rapide. En fait, c'est aussi à la suite de ce qu'a déjà soulevé Christopher. Alors, ça ne serait pas forcément nécessairement dans le cadre de la philosophie de Bentham ou de la philosophie de Locke. C'est une question un peu plus générale, mais même si elle pourrait peut-être avoir des réponses ou des non-réponses d'ailleurs chez ces auteurs. Ça concerne la nature affective en fait du sentiment d'injustice et la possibilité de le distinguer. Des autres sentiments apparentés. Alors, on a vu justement que chez Bentham, on essaie d'éviter éventuellement ce terme et de le ramener à d'autres formes affectives. Qu'est-ce qui, d'une manière générale, pourrait nous permettre de distinguer le sentiment d'injustice de la colère en particulier ou de la frustration? Là, je pense notamment aux tentatives de Rawls avec sa distinction entre sentiments moraux et sentiments naturels. Ou est-ce que, peut-être de manière encore plus décisive, il serait possible de construire un sentiment d'injustice qui soit un sentiment proprement politique? Parce que là, par exemple, chez Bentham, cet sentiment de désappointement, d'attente déçue, c'est finalement des phénomènes qui sont déjà présents indépendamment de la sphère politique. D'un point de vue strictement affectif, on a des attentes. Je veux aller marcher dans 30 minutes, il fait beau, je pense que je vais pouvoir aller marcher, et puis finalement la pluie se met à tomber. Je pense que d'un point de vue affectif, c'est le même sentiment que celui qui a lieu dans la sphère politique. Alors, est-ce qu'on pourrait construire un sentiment d'injustice qui soit spécifiquement politique? Et si oui, quelle serait justement cette spécificité? Est-ce que c'est un rapport justement comme chez Rawls à des principes politiques ou moraux c'était invocation de principes politiques ou moraux, ou est-ce que ça serait dans son rapport, on a vu à l'égalité, donc une intentionnalité spécifique de ce sentiment? Voilà, ça serait un peu ma question. En tout cas, merci à nouveau pour cette discussion qui était très intéressante. Et on a déjà un peu abordé cette question avant, mais peut-être avoir une réponse encore plus précise.
D'accord, oui, bien sûr. Alors, si je fais du coup une réponse peut-être un peu plus général, parfois considère que le sentiment d'injustice est un sentiment déconnecté de l'intérêt particulier, du souci de l'intérêt particulier, et qui relève peut-être, là je ne pourrais pas donner une référence précise, mais du sentiment d'appartenance à l'humanité. C'est-à-dire que c'est qu'être humain, on se sent concerné, voire impliqué par les douleurs, les difficultés qui frappent les autres. Donc voilà, ça c'est une possibilité. On pourrait peut-être là, de ce point de vue, l'articuler à la sympathie, mais donc il ne serait pas spécifiquement politique. Si c'était un sentiment lié à la sympathie qui donne une motivation indépendante de l'intérêt particulier, c'est un sentiment moral, il n'a pas une signification spécifiquement politique. Quoi d'autre? Voilà, c'est difficile de répondre. Il y a quand même l'idée chez Bentham, voilà, si j'en reviens à Bentham, que l'espérance, que l'attente sans être originairement politique, est façonné par le droit positif. C'est-à-dire que c'est le droit positif lui-même qui crée les attentes des individus. Et il y a sentiment d'injustice quand ces attentes sont déçues, mais donc finalement, là, on retombe dans une forme de positivisme. Il y a sentiment d'injustice quand le magistrat lui-même, quand les dirigeants eux-mêmes ne respectent pas la loi positive. Donc voilà, il y a peut-être là une... Je sais que Bentham aussi donne de l'importance à la sympathie. À la sympathie comme c'est la capacité de se réjouir des plaisirs de l'autre ou de la capacité à souffrir des douleurs de l'autre. Et là, la sympathie, elle n'est pas nécessairement politique, justement, elle nous permet aussi de prendre de la distance par rapport au droit positif et de percevoir de l'injustice. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question.
Oui, tout à fait, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement dans l'assistance ? N'hésitez pas à les écrire.
Je pense à Hume, là, peut-être que. En pensant à Hume, on peut peut-être aussi. Hume considère parfois que c'est les règles elles-mêmes peuvent devenir objet de la sympathie. Et donc finalement, nous sommes affectés par la simple violation de la règle. Et là, peut-être qu'on a un sentiment plus politique.
Oui, tout à fait, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, effectivement, il est déjà 19h35. Donc je pense qu'on peut. On peut s'arrêter là-dessus si ça vous va. Donc j'ai bien enregistré la séance. Elle sera disponible sur la page de l'ERIAC. Je peux peut-être effectivement remettre mon écran pour la fin de la séance. Elle sera disponible donc sur la page de l'ERIAC. Et donc je rappelle à tout le monde que la prochaine séance aura lieu la semaine prochaine, donc 19 avril. Et ça sera Martin Buteau qui présentera son travail sur la simulation et les jeux vidéo. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde pour avoir été présent et présente aujourd'hui. Évidemment,
merci beaucoup. Merci beaucoup, Christopher, Armand.
Merci.
Merci à vous aussi.
Merci.
Merci Armand à nouveau. Merci Christopher et merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci. 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 Merci.